de chacune des sept églises de la province romaine d'Asie. Il y avait bien d'autres villes dans cette province où il y avait aussi une église chrétienne. Mais ces sept églises-là, qui sont rapportées dans l'Écriture, ont été choisies par le Saint-Esprit comme type de l'église de Jésus-Christ de tous les temps. Le chiffre 7 étant bien sûr symbolique, il désigne un ensemble complet, en quelque sorte la perfection de ce que Jésus a à dire aux églises de tous les temps. Et d'ailleurs, chacune de ces lettres se termine par cette phrase que l'Église écoute ce que l'Esprit a à dire aux assemblées. Alors, ces sept lettres sont toutes bâties sur le même schéma. Le Seigneur Jésus se présente avec certains des attributs que l'on trouve dans le premier chapitre de l'Apocalypse et qui sont appropriés à la situation de chacune de ces sept églises. Puis, le Seigneur donne son appréciation sur les œuvres de chaque église. Cette appréciation comporte des compliments et éventuellement des reproches. Les reproches peuvent déboucher sur de vives exhortations, voire des menaces de châtiment. Et la lettre se termine par une promesse adressée individuellement aux vainqueurs au sein de chaque église. Parmi ces sept églises, deux seulement ne sont l'objet d'aucun reproche. Ce sont les églises de Smyrne et de Philadelphie. Alors, dans le premier chapitre de l'Apocalypse, au verset 13, le Seigneur Jésus est décrit par Jean comme quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme et qui se tient au milieu de sept chandeliers d'or. Cette expression « comme un fils d'homme » renvoie à la même expression utilisée par le prophète Daniel au verset 13 du septième chapitre de son livre. Daniel avait eu une vision du trône de Dieu et de celui qui y était assis, qu'il appelle d'ailleurs l'Ancien des Jours, et d'un autre personnage qui s'approche de l'Ancien des Jours et auquel la royauté universelle est remise. Et ce personnage est décrit par Daniel comme quelqu'un semblable à un fils d'homme, et qui vient d'ailleurs sur les nuées du ciel. Et vous savez que le Seigneur Jésus, quand il était sur cette terre, se plaisait à se désigner lui-même comme le Fils de l'homme. Dans sa présentation à l'église d'Éphèse, il est décrit comme celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Le verset 20 du premier chapitre nous dit que les sept étoiles que Jésus tient dans sa main sont les anges des sept églises et que les chandeliers sont les sept églises. Les chandeliers d'or sont donc une image de la lumière que les sept églises, représentant l'Église universelle, sont censées faire briller dans ce monde de ténèbres. Et les sept étoiles que Jésus tient dans sa main sont, d'après le texte, les anges des sept églises. Le mot grec « ange » peut désigner soit un être angélique, un être céleste, soit tout simplement un messager. Certains ont pensé qu'il y aurait peut-être un ange céleste qui veillerait sur chaque église. Mais on comprendrait mal pourquoi le Seigneur parlerait à cet ange par l'intermédiaire d'un apôtre humain. La majorité des interprètes pensent donc que le terme « ange » ici devrait plutôt être traduit par « messager » et qu'il désigne, dans le cas particulier, le groupe de personnes auxquelles la direction de l'Église a été confiée, en clair, le collège pastoral et le pasteur. Ceci étant dit, je vous propose de considérer maintenant ce que le Seigneur dit à l'Église spécifiquement de Philadelphie. Alors on va lire le texte. Dans les Bibles comme ça, là, les secondes 21, c'est à la page 811, chapitre 3, donc, les versets 7 à 13. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, cette lettre, Jean doit l'écrire à l'ange de l'église de Philadelphie. On voit que cette lettre, comme les six autres, est adressée à l'ange de l'église de Philadelphie, donc un message destiné à toute la communauté, mais par l'intermédiaire de son équipe dirigeante. Notons que le fait que Dieu ait prévu une structure d'autorité dans son église n'enlève rien au sacerdoce universel de chaque membre de l'église. Nous sommes réellement tous des rois et des prêtres, comme l'affirme formellement le même livre. Au chapitre 1 de l'Apocalypse, au verset 6, il est écrit « Il a fait de nous un royaume des prêtres pour son Dieu et son Père ». Et dans le même livre, au chapitre 5, verset 10, « Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre ». Donc, la lettre de Jean commence par « Voici ce que dit le Saint, le véritable ». Dans le premier chapitre, Jean avait vu le Christ glorifié. Par exemple, au chapitre 1, verset 14, il écrit « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige ». Cette image est empruntée par Jean au prophète Daniel, au chapitre 7, verset 9. Son vêtement, écrivait Daniel, était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Notez au passage que dans Daniel 7, le personnage qui est décrit est l'Ancien des Jours, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et que l'image qui décrit la sainteté parfaite, là dans l'Apocalypse, est utilisée ici pour Jésus-Christ. Nous avons donc là un des nombreux passages de la parole qui affirme que Jésus-Christ est Dieu. Toujours dans le premier chapitre, au verset 2, il est écrit « Celui-ci, c'est-à-dire Jean, l'a attesté tout ce qu'il a vu, c'est-à-dire ce qui a été donné à Jean de voir dans ses visions, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. » Le témoignage de Jésus-Christ est la vérité absolue. Et c'est pour cela qu'il se présente comme le véritable, en contraste avec tous les menteurs que le père du mensonge ne manquera pas de susciter tout au long de l'histoire du monde et de l'Église. Au chapitre 6 de ce même livre, c'est page 813 pour ceux qui veulent regarder, versets 9 et 10, Jean voit les âmes des martyrs sous l'autel dans le ciel qui crient à Jésus en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Il s'agissait de personnes qui avaient été persécutées et mises à mort en raison de leur foi. Et ces personnes s'adressent à Jésus en disant « Maître saint et véritable ». Le Seigneur Jésus est donc dépeint ici comme celui qui est parfaitement saint et qui est par lui-même la vérité. Revenons à notre chapitre 3, donc au verset 7. Jésus est décrit là aussi comme celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Les paroles un petit peu mystérieuses. En fait, dans le Proche-Orient ancien, le personnage qui détenait les clés de la ville était celui qui exerçait la plus haute autorité. Au temps d'Ésaïe, la clé de David était le symbole de l'autorité d'un personnage qui s'appelait Hilkia, qui exerçait la plus haute fonction après le roi dans le royaume de Juda. Et d'ailleurs, Ésaïe, chapitre 22, verset 22, écrit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer, et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. » Christ détient donc le symbole de la pleine autorité dans le royaume de David, qui est aussi en réalité son royaume. Lui qui est nommé à juste titre « Fils de David » dans les évangiles. Ensuite, Jésus dit par l'intermédiaire de Jean à cette église de Philadelphie « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Cette expression « Je connais tes œuvres » se trouve dans chacune des sept lettres. Elle nous montre que le Seigneur Jésus sait tout de nous. Il sait tout de chaque église. Il se présente au chapitre 1 comme celui qui a des yeux comme une flamme de feu, chapitre 1, verset 14, un regard auquel rien n'échappe. Le feu nous parle de jugement. Toute œuvre qu'il désapprouve sera consumée, comme le dit Paul en 1 Corinthiens 3, verset 13. L'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Toujours dans notre verset 8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. » Donc le Seigneur s'est présenté à cette église comme celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Il affirme à l'église de Philadelphie qu'il a mis devant elle une porte ouverte que personne ne peut fermer. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans le texte original, là il est traduit, il a mis devant l'église une porte ouverte, dans le texte original, ce n'est pas le verbe mettre, mais c'est le verbe donner. J'ai donné devant toi une porte ouverte. Curieux, hein, comme expression, mais ça nous montre que c'est un don du Seigneur. Il est important de le remarquer, car un peu plus loin, le Saint-Esprit fera écrire à Jean, « Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan. » Le même verbe est employé, certainement à dessein, pour souligner le parallélisme entre ces deux dons de Jésus à son Église. Donc, « J'ai donné devant toi une porte ouverte. » Ça, c'est une déclaration extraordinaire. Le Seigneur a ouvert cette porte et personne ne peut s'y opposer. Et cette porte ouverte, c'est un don du Seigneur. Bien sûr, cette notion de porte est en rapport avec les clés qui permettent de l'ouvrir ou de la fermer. Et il a rappelé en se présentant à cette église qu'il tient les clés de la maison de David, c'est-à-dire du royaume de Dieu. Alors que signifie cette porte ouverte ? Eh bien, par exemple, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 16, versets 8 et 9, écrit « Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. » Toujours Paul, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 12, « Quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile de Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'avais pas l'esprit en repos car je n'avais pas trouvé mon frère Tite. » Et oui, à cette époque, il n'avait pas de téléphone portable. Mais on voit que le Seigneur avait ouvert une porte à Paul pour annoncer l'évangile de Christ à Troas, une autre ville de la province romaine d'Asie. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, verset 3, Paul écrit là aussi aux Colossiens, « Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois parler. » Vous voyez au passage que Paul, même en prison, se réjouit, demande qu'une porte soit ouverte, pas la porte de la prison, une porte pour l'évangile. Cette porte ouverte est donc certainement l'opportunité de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du salut, que Dieu offre dans sa grâce, moyennant la foi dans l'œuvre de son Fils Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. Et cette porte, personne ne peut la fermer, parce que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a ouverte. Notez que le mot pour dire que cette porte est ouverte est un participe, dans le texte original, est un participe à la voie passive. Elle a été ouverte, sous-entendu par Christ. Et surtout à un temps qui est, dans le grec, le parfait. Alors qu'est-ce que ce temps veut dire? Eh bien, ça signifie que Christ l'a ouverte et qu'elle reste ouverte tout le temps qu'il l'a décidé dans sa souveraineté. Le parfait, c'est un temps qui indique quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais qui persiste jusqu'à maintenant. Donc elle a été ouverte et elle est toujours ouverte. Ce temps, nous n'en sommes pas maîtres, mais nous avons à en profiter. Et cette porte ouvre sur quoi? Eh bien, elle ouvre sur la maison du nouveau David, c'est-à-dire sur le royaume de Dieu. Toujours verset 8. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Darby traduit par exemple, car tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance, car tu as peu de puissance. Quelle que soit la traduction, la préposition qui introduit ce segment de phrase semble bien avoir une fonction de causalité. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, j'ouvre devant toi cette porte toute grande, car j'ai autorité sur elle. L'église de Philadelphie a peu de puissance. Peut-être parce qu'elle est peu nombreuse ou peu connue dans la ville. Apparemment, ce n'est pas une méga church avec orchestre professionnel, prédicateur qui passe à la télé, etc. Mais elle a gardé la parole du Seigneur. Elle étudie diligemment la parole du Seigneur, à savoir à l'époque les écrits de l'Ancien Testament et l'enseignement des apôtres. Et elle met tout son cœur à s'y conformer dans sa vie pratique. De nos jours, l'étude de la parole de Dieu n'a pas toujours très bonne presse auprès des chrétiens. On dit c'est compliqué, c'est trop intello. En particulier les écrits de Paul. On préfère du concret, de l'expérimental. On met l'accent sur le partage des expériences, etc. Ces choses ont bien sûr leur place dans la vie de l'Église. Mais le Seigneur félicite les chrétiens de Philadelphie d'avoir gardé sa parole. Il ne parle pas de la nôtre, qui trop souvent prend peut-être la place de la sienne. En plus, sans renier mon nom. Cette expression sous-entend que l'Église a subi certainement des pressions pour justement renier le nom de Jésus. Et la suite du texte nous indique que ces pressions venaient de Juifs hostile au christianisme. De nos jours et dans nos pays, ce n'est pas la pression de juifs hostiles au christianisme que nous subissons, mais une autre, celle d'un monde profondément athée qui a expulsé jusqu'à la notion même de Dieu dans tous les domaines de la vie civile. Nous en voyons que trop bien la preuve dans notre pays ces derniers temps. Verset 9. « Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est rapporté les embûches dont Paul et ses compagnons ont été victimes de la part des juifs lors de leur voyage missionnaire dans la province romaine d'Asie, mais aussi en Macédoine et en Grèce. L'opposition des juifs de la diaspora à l'évangile a été souvent très violente, pouvant aller de la contradiction à l'outrage, voire même à la lapidation. En Acte 14, par exemple, des juifs d'Antioche et d'Iconium sont venus spécialement à Lystre pour lapider Paul, qui a été laissé pour mort. Puis en fait, il n'était pas mort. Ou alors il était ressuscité, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il s'en est sorti. Et Jésus dit, « Ils se prétendent juifs sans l'être, ils mentent. » Pourtant, c'était bien des vrais juifs de naissance. Mais pour Jésus, ils n'ont plus aucun droit à ce titre, dans le sens où il leur permettrait de se prévaloir d'être le peuple de Dieu. Le véritable peuple de Dieu, ce ne sont plus les juifs. C'est un peuple de toute langue, tribu ou nation qui a mis sa foi dans le Christ. Bien sûr, il y a un noyau juif à l'origine. Les apôtres étaient tous des juifs, par exemple. Mais sur cet olivier franc que sont les Juifs a été greffé l'olivier sauvage que sont les nations du monde qui ont mis leur foi en Jésus, selon ce qu'écrit Paul dans le chapitre 11 de son épître aux Romains. Et remarquez cette expression, « Je te donne des membres de la synagogue de Satan ». Et là, on a un parallélisme évident avec le premier « J'ai donné devant toi une porte ouverte ». Ce parallélisme souligne la souveraineté de celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Deuxième partie du verset 9, « Je les ferai, c'est juif, hein, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé ». Cette phrase du Seigneur peut paraître étonnante. En fait, le texte semble suggérer qu'il y a deux catégories de juifs dans cette synagogue de Satan. Ceux des juifs qui s'opposent à l'évangile et qui devront, au jour du jugement, reconnaître leur erreur et se prosterner devant ces chrétiens qui seront devenus leurs juges. Vous savez que Paul écrit dans la première aux Corinthiens, au chapitre 6, « Ne savez-vous pas que vous jugerez un jour le monde ?» Et alors que justement, ils se permettaient d'avoir des procès entre eux, hein, c'est pour ça qu'il leur dit ça. Mais donc, c'est une vérité. « Ne savez-vous pas que vous jugerez un jour le monde ?» Et puis, peut-être une autre catégorie de juifs. Ceux des juifs qui accepteront le Christ. Malgré l'opposition générale, il semble qu'il y en a toujours eu qui ont été touchés par la prédication de l'Évangile et se sont convertis. C'est pourquoi le Seigneur dit « Je te donne des membres de la synagogue de Satan ». La préposition grecque qu'emploie le rédacteur Jean quand il écrit « de la synagogue de Satan » veut dire « sorti d'eux, hors d'eux, la synagogue de Satan ». C'est un encouragement pour nous. Il est peu probable que le Seigneur nous donne des membres de la synagogue de Satan qui se disent faussement juifs, mais il veut nous donner peut-être de ceux de la synagogue de l'athéisme militant qui se manifeste sous le masque de la laïcité de façon particulièrement évidente dans notre pays ces derniers temps. Verset 10. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. L'épreuve, la persécution, sont le lot des chrétiens depuis l'origine et cela continuera manifestement jusqu'au retour du Seigneur. Il nous a prévenus. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Tout le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs, démontre que la puissance du témoignage des chrétiens se manifeste au travers de leur persécution, jusqu'à faire croire au monde qu'il a finalement réussi à les terrasser. Et Jésus lui-même, dans son discours sur la fin des temps, qu'on trouve par exemple en Matthieu 24 ou en Marc 13, parle d'une intensification sans précédent de la persécution juste avant son retour pour y mettre fin et juger ses ennemis et les nôtres. Et Philadelphie reçoit une belle promesse. Elle sera gardée, particulièrement lors de ce paroxysme de la persécution. Le Seigneur n'a pas dit qu'elle serait exemptée de cette persécution, mais gardée. C'est-à-dire que la pression du monde ne pourra pas lui faire renier son nom. Verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Cette parole bénie résonne aux oreilles de ces chrétiens de Philadelphie comme à celles de tous les chrétiens du monde. « Je viens bientôt ». On retrouve cette parole tendre et pleine d'encouragement à la fin du livre. Au chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Au chapitre 22, verset 20, « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et l'Église en réponse s'écrie « Amen, viens, Seigneur Jésus !» Suite du verset 11 « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » La couronne dont il est question ici est celle des vainqueurs, de ceux qui ont persévéré dans la course chrétienne, avec foi, et qui n'ont pas baissé les bras devant l'opposition du monde. Cette image de la course sportive visant à remporter le prix est utilisé aussi par l'apôtre Paul, comme vous le savez. Cette Église a peu de puissance, mais elle a gardé la parole de Jésus, elle n'a pas renié son nom malgré la pression du monde et dans le cas particulier celle des Juifs hostiles à l'Évangile. C'est ce qu'elle a qu'elle est exhortée à tenir fermement jusqu'au bout. Verset 12. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Philadelphie, la ville de Philadelphie, a connu plusieurs tremblements de terre et ses habitants ont été souvent obligés de fuir la ville en urgence. Le Seigneur promet au vainqueur un refuge stable dans le temple de Dieu. Il ne sera plus obligé de s'enfuir pour sauver sa vie. En fait, dans la Nouvelle Jérusalem qu'il est donné à Jean de voir au chapitre 21 de l'Apocalypse, il n'y a même plus de temple du tout. Car c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau, qui sont eux-mêmes le temple. Une façon de dire que toute la cité céleste est devenue temple. Nous serons donc en permanence dans la présence bénie du Seigneur. Bien évidemment, il s'agit là d'images qui ne sont pas contradictoires, mais qui expriment la proximité du croyant avec son Dieu et la stabilité de sa position pour l'éternité, cette colonne qui parle de stabilité. La deuxième partie du verset 12, « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » On a été occupé ce matin par cette question du nom. Hein. « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Le livre de l'Apocalypse utilise une image très frappante pour exprimer l'appartenance à Dieu ou au diable. Les ennemis de Dieu et de son Christ reçoivent de la part de la bête, un animal monstrueux symbolisant le pouvoir politique qui s'oppose à Dieu, une marque sur la main droite et sur le front. On peut peut-être regarder ce passage, c'est page 817 dans ces Bibles-là. C'est chapitre 13, versets 16 et 17. Donc Apocalypse chapitre 13, au verset 16. Elle fit, c'est la bête, hein, elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Cette marque sur leurs mains les rend tributaires du pouvoir de la bête pour toute transaction commerciale dans cette vie, et la marque sur leur front les désigne pour le châtiment éternel. À l'inverse, les rachetés de Dieu sont marqués au front du sceau de Dieu. Regardez dans le même livre, au chapitre 7, verset 3, c'est page 813, chapitre 7, verset 3, il est dit, bon, il faut peut-être lire un petit peu à partir du verset 1. « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte ou d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Vous voyez que les rachetés sont marqués au front d'une marque qui là n'est pas la marque de la bête, c'est le sceau de Dieu qui les désigne comme sa propriété inaliénable et qui les protège. Ces deux images, d'ailleurs, sont reprises par Jean du prophète Ézéchiel dans son chapitre 9. Ainsi, les vainqueurs de Philadelphie sont marqués du nom de leur Dieu, de la sainte cité qui sera désormais leur demeure, et du nom nouveau de Christ. On trouve d'ailleurs ce nom nouveau de Christ, au chapitre 19, verset 16. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». King of Kings and Lord of Lords, comme le déclame magnifiquement le Messie de Handel. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 13. Alors, chers amis, Nous n'avons peut-être, comme l'Église de Philadelphie, pas beaucoup de puissance. Mais je pense que nous pouvons dire que nous avons gardé la parole, sa parole, et que nous n'avons pas non plus renié son nom. Et dans sa grâce, notre Seigneur a placé devant nous une porte qu'il tient largement ouverte. Il nous fait la grâce de nous associer à son œuvre d'annonce de l'Évangile, actuellement au moyen du parcours Alpha, qui vient de commencer. Il nous a encouragés en nous envoyant 9 personnes lors de la première soirée, il y en avait 10 jeudi dernier. Alors remercions-le et surtout persévérons jusqu'au bout. Et il se plaira à nous décerner la couronne du vainqueur, même si en fait tout cela est son œuvre et non la nôtre. Mais quel bonheur et quel sujet de reconnaissance qu'il daigne nous associer à son œuvre de salut envers les perdus.